Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Ma femme d'aujourd'hui a toujours gardé en tête le message de son père, celui de s'intégrer, de s'émanciper. Ce même père qui sera à l'origine de son envie d'écrire et d'exorciser le mal fait. Ma femme d'aujourd'hui s'exprime au nom de toutes les femmes et enfants victimes de violences conjugales.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
C'est un plaisir pour moi, Habiba Ben Hayoun, de vous avoir avec moi dans Femme d'aujourd'hui. Vous venez de sortir un roman qui s'appelle Cœur berbère, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et c'est votre première, c'est pas votre premier essai?
C'est le deuxième.
C'est le deuxième.
Le premier, c'était L'exil dans la vapeur en 2010.
Alors voilà. Alors Habiba, vous avez un parcours de vie assez particulier. Vous êtes
oui.
D'origine marocaine, vous avez grandi en Algérie, ensuite vous êtes allée en France.
J'ai hérité donc de la langue maternelle tamazire, parce que je parle toujours. C'est mon identité aussi. Et aujourd'hui, donc, je suis fille d'immigrés vivant en France depuis 1969.
Vous vous définissez ainsi, fille d'immigrés, encore aujourd'hui?
Non, plus aujourd'hui, mais... Bon, parfois on en parle, on me dit mais tu es fille d'immigrés, issue de l'immigration.
Oui.
Alors que moi je ne me sens pas immigrée moi-même parce que bon, j'avais 6-7 ans, je suis ok franco-marocaine, voilà, je suis partie d'Algérie, je me suis construite en France, j'ai passé toute ma vie en France et je me sens vraiment mêlée, je me sens, comment vous dire, mêlée des deux cultures.
Exact.
La double culture et que je maîtrise deux pareils, je veux dire, je ne fais pas plus une que l'autre, les deux, je les respecte toutes les deux et elles me font vivre, c'est génial.
Absolument, absolument. Alors, Habiba Ben Hayoun, justement, votre deuxième ouvrage vient de paraître et
oui.
Vous êtes lancée dans l'écriture assez tardivement.
Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours travaillé, je travaille encore et... L'idée d'écrire m'a toujours habité. J'ai écrit toujours dans ma tête, même quand j'étais toute petite. J'ai utilisé les mots pour instrumentaliser ma pensée. Et pour moi, parce que l'écriture, je trouve que c'est un espace pour me ressourcer et me retrouver avec moi-même. Et cet espace contribue aussi à mon équilibre entre... la vie, la sphère professionnelle, personnelle, familiale, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Et puis si j'aime écrire, c'est parce que aussi enfant, j'ai baigné dans les qasidas que mes parents me contaient à la veillée autour d'un feu de bois.
Ouais.
Ou bien sur la plage près des vagues, parce que nous habitions vraiment en bord de mer et nous étions tout seuls toute l'année, sauf l'été où il y avait des touristes qui venaient. Donc à l'adolescence, j'écrivais des poèmes, ils me faisaient rêver. Ensuite, je l'ai caché parce que je ne voulais pas que mes frères les voient.
Pourquoi ?
Et parce que c'était mes secrets à moi. J'ai trois frères, donc ils voulaient toujours tout savoir ce que je faisais. Moi, je l'ai caché. C'était pour moi. C'était pour me faire rêver en silence.
Vous êtes la plus jeune de la fratrie ?
Non, je suis numéro 3.
Mais la seule fille de la fratrie ?
C'est la seule fille, oui.
Ouais.
C'est la seule fille qui s'est exilée pour vivre seule et loin d'eux aussi. Mais voilà, puis plus tard, pour revenir à l'écriture, plus tard, j'avais toujours un carnet dans mon sac, ou bien aujourd'hui, je m'envoie des textos sur mon portable pour mémoire, et puis le soir, je les recopie, je prends mes idées, je les note dans mon ordi. Voilà, je suis du genre à observer beaucoup, observer tout ce qui m'entoure. Je passe aussi énormément de temps dans les transports parisiens pour aller travailler, donc je note les idées durant le trajet, comme ça je ne perds pas de temps. Et en même temps, le trajet paraît beaucoup plus souple. Même les affiches placardées sur les murs des stations de métro attirent mon regard et certaines m'interpellent, elles résonnent. Il suffit d'une image, d'un mot, d'une photo. J'en tire des ressources. Quoi.
Il y a une part autobiographique dans vos écrits.
Oui.
Alors, à quel niveau justement?
Une part autobiographique, enfin, c'est une fiction avant tout,
oui.
Ça peut être l'histoire de tout un chacun, de toute jeune fille, l'histoire, l'immigration, déracinement, violence conjugale, il y a tout ça.
C'est ça, mais voilà. Donc, alors, est-ce que vous...
Aouicha, voilà.
Oui, alors justement, où s'arrête Aouicha et où commence Habiba dans cette histoire?
Habiba commence dans cette histoire. Habiba, elle a toujours commencé, elle a toujours été accompagnée, elle a toujours accompagné Aouicha, mais son histoire à elle, qui peut-être fera l'objet d'un autre livre, la suite de celui-ci, c'est lorsqu'elle quitte ses parents, elle quitte les coutumes, elle quitte la communauté berbère pour aller s'installer seule à Paris à 18 ans.
Vous en avez eu besoin, ouais. Habiba?
Oui, beaucoup.
Oui.
Parce que ça m'a sauvée. Je n'étais pas harcelée, mais quand j'ai commencé à voir défiler des personnes qui venaient demander la main à maman, je me suis dit non, pas ça, non. Papa a traversé les mers pour nous amener. Lorsqu'nous sommes arrivés en France, il nous a dit ici, dans la rue, vous faites comme tout le monde, à la maison, vous faites comme à la maison, et vous respectez tout un chacun. Voilà, à partir de là, j'ai reçu une leçon et donc je suis allée de l'avant depuis. Je n'ai jamais, jamais cessé, je n'ai jamais baissé les bras.
Mais alors justement, entre ce qui a été dit par votre papa une fois que vous êtes arrivée en France et la réalité, puisque vous dites vers 17 ans, 18 ans, des gens venaient déjà demander votre main à votre maman. Votre papa, il en pensait quoi?
Mon papa était, lorsque les gens venaient demander ma main, mon papa était parti, il nous avait quittés. Il est rentré au Maroc, mes parents ont divorcé. Voilà.
Ok. Et donc, vous êtes restée là-bas avec votre maman?
Avec ma maman, mes frères, et bon, après le bac que je n'ai pas obtenu finalement à Perpignan, je l'ai obtenu à Paris, et j'ai continué ma vie seule à me battre, mais vraiment seule.
Seule? Vous êtes en contact avec eux maintenant ou pas?
Oui, toujours, bien sûr. Maman est décédée, et mes frères, je les revois, de temps en temps.
Et justement, le fait de partir de cet environnement-là, j'imagine que ça n'a pas été facile pour eux de l'accepter au départ.
Non, bien sûr, c'est parce qu'ils ne l'ont pas accepté. C'est ça qui m'avait fait, qui m'a donné encore, qui m'a redoublé de force pour aller de l'avant, parce qu'ils ne voulaient pas que je parte. Et moi, j'ai dit, il faut que je parte, je dois construire ma vie, je dois entreprendre des études, je dois devenir indépendante, je ne veux pas... Comme maman m'a toujours encouragée à faire des études et elle me disait toujours « Sois digne, sois indépendante, ne demande jamais rien à personne. » Donc voilà, j'ai retenu des leçons, mais maman nous a éduqués. Maman était analphabète, mon père était illettré. Mon père était illettré. Mais maman nous a éduqués, m'a éduquée en tout cas moi en tant que femme. Elle m'a toujours poussée à aller de l'avant, à me dire « Tes études, ta vie, ton indépendance financière. » Donc c'était beaucoup de sagesse, j'ai vraiment grandi avec beaucoup de sagesse et que j'ai utilisé à bon escient, parce que j'ai continué à aller sur le droit chemin et je ne pouvais pas faire autrement que ça.
Alors justement, quand vous avez dit à votre mère, cette femme qui vous poussait à aller de l'avant, que vous vouliez voler de vos propres ailes, alors que la culture veut qu'à cet âge-là, à 18 ans, vous soyez déjà mariée, comment elle a réagi, elle, femme, à cette époque-là?
Je lui ai beaucoup parlé, parce qu'elle vivait, dans cette communauté, les mamans vivaient beaucoup par rapport au regard de l'autre.
Bien sûr.
Et je lui ai dit, je partirai, tu verras, je serai bien, et tu viendras chez moi. Je lui ai promis ça, et chose faite, je l'ai fait. Et elle a accepté, mais bon, elle a accepté, mais en fait, il y a les autres, il y a le regard des autres.
Qu'est-ce
qu'ils vont dire après? Ils ont dit, ils ont redit, mais bon, après, bon, c'est... Ils m'ont oublié et puis moi encore plus, voilà.
Ouais. Alors, j'insiste quand même par rapport à ce volet de votre vie, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous écrivez, entre autres, pour aussi comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les mentalités de ces Marocains qui vont à l'étranger. Vos frères ont eu des filles, j'imagine?
Mon frère, un.
Est-ce qu'ils se sont détachés? Est-ce qu'il s'est détaché justement de ça? Est-ce que pour lui, sa fille doit étudier, doit évoluer, doit grandir, doit voler de ses propres...
Il y a une évolution.
Une évolution, oui.
Il y a une évolution de ce côté-là parce que je pense que j'ai servi aussi de modèle, mais de leçon aussi à beaucoup de gens. Lorsque ce même frère qui a les deux filles qui ont fait des études, qui ont bien réussi, il m'interdisait par exemple de sortir parce qu'il y avait aussi le regard de l'autre et tout. Lorsque ils ont vu que j'ai réussi ma vie, que je me suis battue, que je suis allée jusqu'au bout, ces filles, il n'y avait aucun problème. Elles ont fait leurs études, elles ont choisi qui elles aimaient, qui elles épousaient, etc. Donc, pour moi, c'est une réussite aussi, ça.
Absolument,
d'avoir
absolument.
Servi, d'avoir servi de ce modèle sans faire de mal à personne.
Voilà.
Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mmh. Je continue mon chemin et je construis ma vie voilà, sur des bases solides. Et je m'en réjouis aujourd'hui.
Mmh. Alors, une autre question quand même. Le départ de votre papa, vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'étais au lycée. Je devais avoir, je pense, 17 ans. 17 ans, oui.
Et ça, vous l'avez vécu comment?
Je l'ai très très mal vécu parce que mon père, malgré tout, il était mon ami et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses que je n'ai pas trouvées dans les livres. Et le fait qu'il parte comme ça, je l'ai mal vécu. J'ai très très mal vécu. Un an après, je partais. Je ne pouvais plus rester là. Parce qu'il me comprenait, on se comprenait. Je pouvais lui dire des choses que je ne disais pas trop à ma mère. Et lui, je pouvais. On sortait, on allait au café, on discutait, on allait dans les parcs, on marchait. C'est comme à la plage d'autrefois.
D'accord. Et vous l'avez senti comme un abandon?
C'était un abandon, parce que c'était l'âge où j'avais besoin de lui. J'avais besoin d'un père, pour m'accompagner, pour mes études, pour peut-être un jour me marier, m'accompagner à la mairie, parce qu'on se mariait à la mairie, me donner le bras. Tout ça, je n'ai pas eu. Ça m'a beaucoup manqué. Mmh.
Alors justement, en tant que femme, Habiba,
oui.
En tant que femme, le fait de vous être construite toute seule, d'avoir ressenti cet abandon, de ne pas avoir vécu ces choses-là avec votre papa, ça vous a éloigné des hommes?
Au départ, oui, parce que je m'étais promis de ne pas me marier si c'est pour avoir la même vie que ma mère. Mmh. Et puis, avec le temps, aussi à Paris, j'étais seule, mais je ne fréquentais personne. J'avais peur de tout. J'avais peur de l'homme, en fait, en gros. Puis, un beau jour, je faisais des stages, etc. Je rencontre un monsieur qui est devenu mon mari. Ça fait 41 ans maintenant.
Oh, c'est magnifique. 41 ans de... Ouais.
C'est un facile, donc voilà. On s'est bien entendu dès le départ. Et c'est, voilà. Ça fait 41 ans que je suis avec lui, oui.
Comme quoi, finalement. Mais j'imagine que vous avez dû... Ça ne devait pas être facile pour lui au départ.
Non, ni pour moi. Ni ouais. Pour moi, parce que c'est quelqu'un qui était venu faire ses études à Paris. Il devait rentrer chez lui. Et voilà, je m'attendais à ce qu'il parte. Et puis finalement, moi, je suis partie à l'étranger entre-temps et je suis revenue à Paris. Ensuite, j'ai démissionné de mon nouveau travail à Paris. Je l'ai suivi au Maroc pour vivre au Maroc. Alors, je n'ai jamais mis les pieds qu'en 1986, lorsque je suis partie vivre justement à ce moment-là, en 86. Et j'ai vécu 2 ans au Maroc. C'était très dur pour moi, très, très, très dur. Encore plus dur que lorsque je suis partie sur Paris à 18 ans.
Pourquoi ça?
Je ne sais pas, à l'époque, je trouvais tout bizarre. C'était pas mon contexte, c'était trop rapide. Donc j'avais un super travail, je travaillais à Casablanca. Et au bout de 2 ans, je n'ai pas pu tenir, je suis revenue sur Paris. Et 3 jours après, bah, avec mon réseau, j'ai eu du travail rapidement.
Et lui voilà, a suivi et après, aussi.
Et il a suivi 6 mois après aussi.
Ah ben bah, super.
Et il a continué à rester ici.
Super.
Voilà.
Alors Habiba, vous avez, donc on va dire qu'aujourd'hui même, vous continuez à vivre votre vie de la salariée, celle qui travaille.
Oui,
et de l'autrice en parallèle.
Et de concilier les trois. Et puis en 2000, j'avais 40 ans à peu près, j'ai repris des études tout en travaillant à temps plein, concilier la vie de famille, enfants. Et j'ai repris le CNAM pendant 7 ans en cours du soir et j'ai préparé un diplôme de psychologue du travail parce que
d'accord.
Les conditions du travail m'interpellaient beaucoup. Et donc j'ai eu mon diplôme et puis ensuite j'ai encadré, j'ai fait d'autres métiers dans mon entreprise, toujours la même. Après en 2016, j'ai de nouveau été sélectionnée pour suivre à Nanterre le Master 2 d'ergonomie. Et donc j'ai été ergonome. J'ai un poste d'ergonome et psychologue du travail au sein de mon entreprise.
Et ça vous laisse le temps d'écrire et de sortir un premier livre et un deuxième?
Oui, c'est-à-dire que ce livre, je l'avais écrit il y a quand même quelques années. Je l'avais mis de côté parce que je ne voulais pas l'éditer.
Pourquoi?
Je l'écrivais, je revenais dessus. Il a évolué de... Ben, je ne sais pas, je trouvais que c'était un peu intime. Et puis aujourd'hui, je dis non. Non, il faut que les gens le sachent aussi. Il faut aussi que cette personne qui a souffert cette yama, il faut réhabiliter donc sa mémoire peut-être m'ériger à un modèle d'émancipation pour toutes les femmes.
Yama, c'est votre maman?
Comment?
Yama,
c'est la maman d'Aouisha. Elle n'a même pas de nom parce qu'elle recevait tellement de coups qu'elle s'appelait jamais par son, on l'appelait jamais par son prénom. C'était Yama.
Yama. C'est voilà. Pas votre maman dans la vraie vie.
Si.
Si.
Voilà. Et en fait, ce livre, c'est plus un message que je demande aux agresseurs de cesser de semer la terreur à leurs enfants en cognant sur leur maman, car même si celles-ci pardonneront un jour, mais les enfants, eux, mémorisent les scènes de violence. Et ils seront poursuivis leur vie durant, que ce soit pendant leurs études, leur profession, leur vie privée, et tous n'auront pas la même force de s'en sortir, parce que les conséquences des violences conjugales nuisent gravement au développement et à la construction de l'enfant.
Mais en même temps, vous dites que vous en avez voulu à votre papa d'être parti.
Oui, je lui en ai voulu d'être partie, mais bon, on finit par pardonner à toutes ces choses-là. Parce que je l'aime toujours, je l'ai aimé, il m'a aimé beaucoup.
Malgré la violence.
C'est ça. Au départ, je disais rien. À la fin, quand j'ai grandi, je me rebellais contre lui, bien sûr. C'est pas passé facilement, mais je me suis rebellée beaucoup et il a fini par partir. Et puis voilà.
Et les garçons
et nos parents. Oui.
Les garçons, on dit souvent que ce que les enfants qui ont grandi dans un environnement violent ont tendance à répéter le même scénario. Est-ce que c'est vrai?
Oui. Parmi mes frères, non, il n'y a eu aucun qui a eu la violence envers
sa femme,
son épouse, ses enfants. Ils ont travaillé durement pour s'en sortir par la suite, oui. Mais non, j'ai pas eu cette violence. La seule chose, c'est que les frères étaient durs avec moi parce qu'ils voulaient pas que je sorte.
Oui.
Alors si je sortais, ils venaient me chercher, ils me ramenaient. Il fallait pas que je le fasse toute seule. Voilà. Si j'étais invitée chez une copine, ils venaient me chercher le soir. Voilà. C'était ça. Mais bon, on s'est toujours bien entendu. Il n'y a pas eu de violence du tout de ce côté-là.
Alhamdoulilah.
Mais il y a eu de la souffrance quand même.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que ce vécu d'enfant, avant même l'âge de 18 ans, puisque c'est à 18 ans que tout s'est arrêté, que tout a changé, votre papa est parti, vous avez quitté l'environnement, vous avez pris votre vie en main, etc. Est-ce que ces 18 premières années ont façonné le reste de votre vie?
Oui, mais plus l'enfance passée en bord de mer, parce qu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de soleil, et toutes ces choses-là... me faisait rêver, me faisait vivre. Et lorsque ça n'allait pas à Paris, où j'étais vraiment à Caen, fatiguée, et tout, je repensais à ces couleurs et je me ressaisissais. Je suis une femme résiliente, donc la résilience compte beaucoup pour moi.
Donc vous pensiez à ces couleurs et non pas à ces moments difficiles?
Non. Je vais toujours puiser dans le bleu de la mer, le ciel, les couleurs, les odeurs. Je repense, je m'aime. Même quand je suis dans la cuisine, je ressens des odeurs que ma mère cuisinait, ou les odeurs, les arômes des fleurs qui m'entouraient. Mais c'était merveilleux. Et cette merveille, justement, cet émerveillement, m'ont guidé, m'ont aidé à aller de l'avant, à aimer la musique classique, à aimer des choses. Elles m'ont façonné quelque part.
Bien sûr. Oui.
Et d'ailleurs, quand j'écris. Je m'entoure, je mets de la musique classique ou je prends un casque. Et elle m'aide à voyager à travers les mots, la musique classique. Elle m'inspire. Elle m'entraîne vers la mer, vers le bleu. Et puis à ce moment-là, donc, la plume glisse comme guidée par les instruments de musique et les airs qu'elle joue.
Alors Habiba, ce dernier livre, il est pour qui?
Il est pour toutes les femmes opprimées, pour toutes les femmes violentées. Il est pour toutes les jeunes filles qui veulent rêver leurs rêves, qu'elles peuvent le faire. Je les encourage vivement, mais en restant toujours dans le raisonnable, en respectant soi-même déjà, ensuite respecter l'autre. Beaucoup, surtout le respect.
Ce livre s'appelle Cœur berbère, voilà.
Oui.
Et il sortira officiellement le 22 septembre prochain.
Le 22, il est déjà dans les... Voilà, pour nous, il sort bientôt, mais bon, officiellement, c'est le 22.
Le 22, absolument. Merci beaucoup. Merci, Habiba. Alors, justement, au nom de toutes ces femmes, justement...
Oui.
Est-ce que c'est un livre dans lequel elles peuvent trouver du réconfort, dans lequel elles peuvent trouver une façon de s'en sortir?
De s'en sortir, c'est-à-dire elles peuvent lire ce qui arrive aux autres, ce qui arrive dans ce livre n'arrive pas qu'aux autres, ça peut leur arriver à elles, mais que cette Aïcha a réussi à s'en sortir. C'est ça que je voudrais partager en fait. En fait, le cœur berbère, il transpose le réel, celui des scènes de terreur, grâce à des mots empreints de poésie, de soleil, de couleurs, de l'enfance et de mouvement de l'eau, parce qu'il faut toujours se raccrocher à quelque chose de positif pour relever la tête. Il faut pas. C'est tellement plus facile de descendre les escaliers que de les monter.
Bien sûr.
Voilà. Et puis cette fille avait toujours une envie de traverser l'océan pour aller, pour fuir au-delà de l'horizon. Donc il faut toujours se projeter en avant, même si on n'a pas les moyens. Mais le rêver déjà aide beaucoup. Et puis pour ces femmes justement, c'est que il faut pas baisser les bras. Il existe. J'avais un professeur au CNAM qui s'appelait Monsieur Yves Clos, qui était professeur de psycho du travail, qui m'a beaucoup accompagné. Il disait, le dernier mot n'est jamais dit. Il faut jamais fermer les portes. Je veux dire, je partage de tout cœur l'histoire d'Aïcha et je souhaite dire à toutes les femmes justement qui ont subi des violences, qui en subissent encore, de garder espoir, de ne pas baisser les bras. Elles ont le droit d'être protégées, mais aussi le devoir de protection existe aujourd'hui pour leur éviter de mourir sous les coups. Il y a des femmes qui meurent aujourd'hui sous les coups à travers le monde. Car contrairement à autrefois où il était quasi normal pour un homme de battre sa femme, au même titre que de la nourrir, et qui gardait le silence, la femme gardait le silence, aujourd'hui les choses ont évolué. Car de plus en plus de femmes travaillent, elles sont indépendantes, et des moyens sont mis en place pour les protéger. Et c'est à elles de se manifester. Il ne faut pas rester en silence, parce que plus elles resteront en silence, plus elles seront opprimées. Et voilà. Et ce que je voulais, pour terminer, excusez-moi, Aïcha a vécu avec la culpabilité et le sentiment d'avoir une dette envers sa mère qu'elle ne parvenait pas à régler, parce qu'elle culpabilisait que sa mère soit frappée et qu'elle ne pouvait pas intervenir. Mais justement, ce livre, grâce à Cœur Berbère, c'est chose faite, car elle réhabilite la mémoire de sa mère. Et elle s'érige en modèle d'émancipation pour toutes les femmes qui sont partagées entre tradition et modernité, par exemple concernant les personnes qui sont exilées à l'étranger.
Merci beaucoup, Habiba. C'est un plaisir.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé ce moment de parole. Je vous remercie infiniment.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.